Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Y'a pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, il est 17h30 et on se retrouve pour une nouvelle semaine d'inattendu. Avec moi pour animer cette émission, Julien, bonsoir à toi.
Bonsoir Jeanne.
Comme tous les lundis, tu nous fais découvrir une liste qui se présente pour les municipales 2020 à Rennes. Et aujourd'hui, tu as rencontré Pierre Priet de l'antenne rennaise du Parti ouvrier indépendant et démocratique.
Exactement, Bleuen est également avec nous. Elle est allée à l'Institut d'études politiques de Rennes mercredi dernier pour une conférence sur les ravages sociaux et environnementaux de la production de cacao et sur les alternatives qui existent.
Nous vous parlerons également de l'Aloïc, la semaine autour du thème d'Halloween à l'université de Rennes 2, avec Hugo, chargé de mission Aloïc au bureau de la vie étudiante.
Quant à toi Jeanne, tu seras accompagnée de Jean-François, notre chroniqueur littéraire du mardi, et vous recevrez tous les deux Sylvain Riflet, un saxophoniste de jazz qui présente son album Refocus, aux côtés de l'Orchestre Symphonique de Bretagne, vendredi prochain à l'Opéra de Rennes.
Un chouette programme en définitive, alors sans plus tarder, on plonge dans les abysses de l'inattendu. On prend d'abord la route des municipales 2020 à Rennes avec toi, Julien.
Politique.
Les élections municipales.
Les élections municipales. Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes, Rennes.
Rennes, Rennes.
Rennes.
J-146 avant le premier tour des élections municipales en mars prochain. Je continue ma rubrique en route vers les municipales 2020 à Rennes en m'intéressant ce soir au POID, le Parti ouvrier indépendant et démocrate. J'ai rencontré cet après-midi Pierre Priet, ancien candidat aux élections municipales de 2014 et membre du POID à Rennes.
La première chose qui est importante, c'est que personne ne sait dans quelle situation va être le pays au moment des élections. Il y a une colère incroyable qui gronde. Le mouvement de retrait massif des cheminots en est la dernière manifestation. Avant eux, les pompiers, avant eux, la RATP. Et le 5 décembre, tous les syndicats de la RATP appellent à la grève unie, illimitée. La question qui se pose à tous les militants ouvriers, syndicalistes, c'est comment on peut préparer la grève pour faire reculer le gouvernement sur la question des retraites et sur toutes les revendications. Donc les élections municipales qui arrivent vont être enserrées dans les luttes sociales, dans la lutte de classe. C'est ce cadre-là. On essaye, à l'étape actuelle, de définir ce que seraient les bases concrètes d'un mandat qui, à notre avis, devrait rassembler une très large unité de militants de différentes origines. Alors, on a mené campagne là depuis des mois sur une question qui est, à notre avis, importante. C'est la question de la fermeture de l'hôpital Sud dans le cadre d'une restructuration du CHU. Le résultat de cette restructuration étant la fermeture de l'hôpital Sud et la suppression de 400 lits. Nous, on refuse. Il y en a marre. Il y a une orgie de destruction de services publics, les bureaux de poste, les trésoreries. La situation dans les hôpitaux est catastrophique. Il y a une situation qui est absolument sans précédent où les grèves se succèdent dans des centaines d'hôpitaux, y compris au CHU à Rennes. Et le ministre, avec l'appui, et c'est là qu'il y a une question politique décisive de la maire de Rennes, prétend continuer à mettre à genoux l'hôpital public avec cette restructuration qui supprimerait 400 lits et qui est déjà commencée. On pourrait résumer notre liste d'unités autour de la phrase suivante. Il faut une municipalité qui défende les droits de la population et qui ne soit pas le relais de la politique du gouvernement.
Aujourd'hui, vous estimez que la politique, en tout cas menée par Nathalie Appéré, n'est pas assez portée vers la population ?
Disons qu'elle se fait sur la question de l'hôpital. Elle met en œuvre le plan Buzyn de suppression de lits. On est à l'université. Elle relaie la politique de Frédéric Vidal de fusion des universités avec le même discours de vendeur de savonnettes, mais qui cache quoi ? Des suppressions de postes et puis des suppressions de filières. C'est la restriction des budgets. C'est l'attaque en règle contre l'école publique. Donc de ce point de vue-là, quand la direction de la Poste, par exemple, a annoncé que 7 bureaux de poste allaient fermer à Rennes, ce qui a soulevé un tollé, le conseil municipal, la majorité du conseil municipal a voté pour. Quand le conseil départemental annonce qu'ils vont fermer le collège de Villejean, la maire se tait. Alors c'est bien sûr pas de sa responsabilité, mais elle choisit de ne pas se battre à côté des parents et des syndicats qui veulent que le collège reste ouvert. Et donc, nous, on veut une municipalité qui se batte, qui soit une municipalité qui défende tous les services publics, qui mette un coup d'arrêt, qui soit à côté de la population pour mettre un coup d'arrêt à ces destructions de services publics. Donc, nous nous battons pour la remunicipalisation systématique de tous les services municipaux. Alors, ça concerne la gestion d'équipements nombreux qui sont gérés par une entreprise Cité Média, par des associations, etc.
Est-ce que vous avez songé ou est-ce que vous réfléchissez aujourd'hui à une liste commune peut-être avec par exemple Lutte Ouvrière sur Rennes ou des partis comme la France Insoumise?
La situation où le POID est le seul parti à défendre l'hôpital Sud n'est pas une bonne situation. C'est un combat qui devrait être très très largement partagé. Et donc on a écrit à tous les groupes municipaux du conseil municipal pour leur demander de nous recevoir sur cette question-là. On va intervenir au conseil municipal le 2 décembre. On a écrit deux fois à Madame Appéré, qui n'a même pas daigné accuser réception. Et donc, comme premier résultat, le groupe Europe Écologie Les Verts a dit qu'ils allaient nous recevoir. Ce qu'on veut, si vous voulez, c'est une liste qui soit extérieure au jeu politique confus entre la mairie sortante et des listes dites d'opposition qui, en fait, ne sont que des variantes d'une même politique. On veut d'abord définir, c'est ça qui va faire le contour de la liste d'unité. Le conseil municipal élu en mars aura, dans ses premières délibérations, la question de la liquidation des jours de congés excédentaires des salariés territoriaux, de par la loi de transformation de la fonction publique. Donc nous sollicitons un mandat pour dire, nous, on veut une municipalité qui ne fera pas ça, qui refusera de privatiser, puisque avec cette loi-là, un service municipal qui serait privatisé, les contrats de travail des salariés seraient aussi privatisés. Donc on veut revenir aux formes les plus simples de la démocratie locale, solliciter un mandat des électeurs, et on essaye de définir les contours, non pas sur le terrain de la surenchère, mais sur le terrain de dénoncer des faits incontestables, simples, qui permettent à des forces politiques de se regrouper.
En mars 2014, vous meniez déjà une liste à Rennes pour les élections municipales. À l'époque, vous aviez obtenu 0,96% des voix. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez vous faire entendre aux prochaines élections municipales ?
Le résultat de l'élection, c'est aussi le résultat des moyens matériels dont vous disposez pour concourir dans l'élection. La situation a changé. On part avec des objectifs, on n'a pas de limite au niveau de nos objectifs électoraux, mais on part à une bataille concrète. On n'est pas là pour témoigner, pour être la petite liste qui dirait « Ah oui, mais c'est pas bien ». On veut engager une bataille sur la... On a lancé un appel contre la fermeture de l'hôpital Sud. Il y a 700 signatures. Il n'y a pas de raison, on ne se limite pas. Si d'autres forces politiques prennent conscience de l'importance de l'enjeu, tout est ouvert. À l'étape actuelle, je vous disais, la situation, personne ne sait dans quelle situation sera le pays au moment des municipales. Il y a une crise de décomposition politique. On essaye d'ouvrir une alternative positive à cette situation-là en listant un certain nombre de batailles qu'il faut mener dans le cadre de ces élections.
En 2014, vous qualifiez Rennes Métropole de machine à privatiser et à créer des emplois. Est-ce que 5 ans et demi plus tard, aujourd'hui, vous faites le même constat ?
Eh bien oui. D'ailleurs, à l'époque, on était les seuls à soulever ce problème-là. En 2014, on expliquait que c'était juste avant les élections. C'est en ça que la question de la démocratie communale est importante. Juste avant les élections, le premier volet de la loi de métropolisation venait d'être voté. Et donc, on a été les seuls à alerter. On l'a mis dans notre profession de foi. On disait, par exemple, comme le gouvernement se prépare à rogner les dotations qu'il doit aux collectivités territoriales, il va leur permettre de lever de nouveaux impôts. Et donc, en particulier, on avait dénoncé par avance le fait que les amendes pour défaut de stationnement étaient dépénalisées, devenaient des redevances, et étant dépénalisées, il n'y avait plus de tarif national, et donc les municipalités pouvaient trouver des ressources là-dedans. Et donc, à Rennes, c'est passé de 17 à 34, ça a été multiplié par 2. En 2014, le budget de la ville de Rennes, c'était à peu près, de mémoire, 460 millions d'euros. Il est à 360 millions. Les budgets de la ville de Rennes, les prérogatives ont complètement fondu, sont délégués à Rennes Métropole, qui est une instance qui est incontrôlable, qui n'est pas élue au suffrage universel, donc qui est hors de contrôle. On éloigne le pouvoir de décision des citoyens. Et donc nous, dans ces élections-là, nous... On se bat pour que la population qui est seule souveraine puisse décider des grandes orientations de la ville. Alors, par exemple, sur les transports. Nous sommes pour les transports gratuits. La maire dit, pourquoi pas une discussion sur les transports gratuits. Mais si on peut avoir une discussion, il ne faut pas qu'elle soit contrainte par le fait qu'il y a à peine un an, elle a renouvelé le contrat de Keolis. Ce n'est pas la multinationale Keolis qui va faire les transports gratuits. On ne va pas avoir c'est se moquer du monde de dire on va discuter sur les transports gratuits alors que sur la deuxième ligne de métro, on fait installer des barrières infranchissables. Donc nous, on considère qu'à l'occasion des élections municipales, la population devrait choisir si l'eau, ça sert pour verser des dividendes à la SOR et à Veolia, si les transports, ça sert à verser des dividendes à Keolis, si les ordures ménagères, ça sert à verser des dividendes à Suez. Et sur ces options-là, c'est la souveraineté populaire qui devrait trancher. Or, toutes ces questions-là sont évacuées des élections. Des décisions sont prises en amont, donc ça, on conteste. On est pour un retour à la démocratie locale, la démocratie communale. La France étant un pays qui est en crise de décomposition, le combat pour la démocratie politique en France devrait s'appuyer sur la démocratie communale, qui est la source d'une démocratie politique directe, et contre la Ve République, qui est un pouvoir fort, dictatorial, policier, etc. Donc sur Rennes Métropole, on confirme ce qu'on avait dit, malheureusement.
Pour terminer cet entretien, je vais vous proposer une question que j'ai proposée à tous les autres candidats et tous les autres partis que j'ai rencontrés. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait mettre en place une plus grande écoute des populations, notamment dans les quartiers ?
Vous savez, déjà, arrêter de fermer les collèges, le quartier de Villejean ici, pas la municipalité celle-là, mais celle d'avant a fermé l'école Kennedy. Celle-là laisse faire la fermeture du collège. Il faut commencer par respecter la jeunesse. Il laisse la décomposition s'installer dans les quartiers. Nous sommes pour la démocratie représentative. Par exemple, il y a la démocratie participative, qui est un leurre. Puisque le budget qui est alloué pour la démocratie participative, c'est même pas les intérêts de la dette que paye la municipalité tous les ans. Nous sommes pour la démocratie directe. Le conseil municipal va voter là bientôt dans un mois le budget de la ville. Et ben c'est là qu'il faut... La souveraineté du peuple, c'est pas sur à peine 1% du budget, c'est sur 100% du budget. Et donc c'est une volonté politique. D'une part, au point de départ, au moment des élections, de tenir un langage clair qui ne soit pas un langage politique publicitaire, sur la base d'un mandat qui tient sur une profession de foi recto verso et qui engage. Nous sommes pour la révocabilité des élus. Et donc, nous sommes pour que la population puisse intervenir dans le cadre du conseil municipal. On va, par exemple, le 2 décembre, on a demandé d'intervenir. C'est suite à la grève des salariés de la commune en 1999 qu'ils ont installé des grilles au bas de la salle qui est au bas de l'escalier qui mène à la salle. Avant, le conseil municipal était ouvert. On a vu des séances où les gens écoutaient dans les escaliers et tout. Là, maintenant, le conseil municipal se tient dans un bunker. Vous voulez intervenir, il faut montrer patte blanche à l'entrée. Vous avez le droit à faire passer 2 ou 3 personnes. Non, on est pour ouvrir le conseil municipal à la population. On est pour que la population puisse se saisir, rectifier le tir des élus s'ils n'ont pas respecté le mandat, mais pas à l'occasion d'une discussion publicitaire sur 0,8, 0,9 ou 1% du budget, mais sur les choix. Donc, moi, je ne vous cache pas qu'il y a un travail qui est énorme à faire, mais le premier travail de la municipalité, c'est de défendre l'école publique. Dans les quartiers, il faut redonner confiance aux jeunes. Faut donc, quel est le bilan des nouveaux rythmes scolaires ? Pourquoi la municipalité sait que la fusion des universités, c'est des filières en moins ? Le fait que le collège de Villejean soit fermé, ça veut dire encore des classes bourrées, etc. etc. C'est à partir de là, il faut reprendre une politique de défense des droits de la jeunesse qui... Bon, deuxièmement, vous déréglementez le droit du travail. Un jeune maintenant qui... moi, ma génération, à 18-19 ans, on allait dans une entreprise, on avait un CDI. Quel jeune a cette possibilité ? Faut reconstruire la loi El Khomri, la loi travail, les ordonnances Macron, ils ont tout démoli. Alors, ça dépend pas de la maire, sauf quand elle est députée et qu'elle vote ça. Bon, elle peut montrer l'exemple au niveau de la commune. Est-ce qu'elle va titulariser les jeunes? Est-ce qu'elle va refuser l'application de la réforme de la fonction publique? Est-ce qu'elle va contractualiser en masse maintenant? Est-ce qu'elle va privatiser? Est-ce qu'elle va continuer à privatiser des services? C'est en ça qu'on donne confiance à la population. Après, effectivement, c'est un travail. Vous savez, dans les petites communes, les maires sont des militants. C'est des militants de la commune. Il faut discuter, il faut aller au contact, mais sur la base d'un mandat, pas sur la base de... Voilà.
Merci Pierre Priet, je le rappelle, vous êtes membre à Rennes du POID, le Parti Ouvrier Indépendant et Démocrate. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Cette interview est à retrouver en podcast sur le site de SILAB, www.c-lab.fr. La bataille pour les municipales 2020 à Rennes ne fait que commencer.
Politique.
Les élections municipales.
Les élections municipales.
Les élections locales.
De quoi relancer l'intérêt pour le second tour des municipales.
Globalement, ces municipales s'avèrent assez difficiles.
Rennes.
La chanteuse enchantée Julia, influencée tant par le R&B que par le jazz ou le hip-hop, sort un nouvel EP mi-novembre. On l'a découverte récemment avec le morceau 45 tours. Cette fois, c'est avec Oscar Hemsch qu'elle est en duo. On écoute leur titre Le Salon sur SILAB.
À travers la fenêtre, juste après le tonnerre, au coucher du soleil, juste après la fournaise.
J'ai perdu l'habitude, je cherche une ouverture vers le sable, loin de la vie, au plus vite.
Vers la fenêtre, juste après le tonnerre, je ne vois que du bitume. J'ai perdu l'habitude.
Au coucher du soleil, juste après la fournaise, je ne vois que de lumière qui fume.
Dans le salon, je mets les talons, je vais t'étaler. De toute façon,
serre-moi un verre. Mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon. Oh, je vais dépenser mon salaire au plus près de l'eau salée. Désolé, fausse alerte. On sera mieux sous le soleil. Le téléphone est obsolète. Je ne réponds pas de l'été.
Je veux changer d'atmosphère. Respirer un peu d'air, les yeux rêvant des grands bleus. Cheveux au vent dans les yeux, il pleut des fleurs. Du haut des falaises, je compte plus les heures. Assis sur ma chaise,
à travers la fenêtre, juste après le tonnerre. Je ne vois que du bitume, j'ai perdu l'habitude. Au coucher du soleil,
de toute façon, serre-moi un verre, mets des glaçons pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon. Serre-moi un verre, mets des glaçons.
Besoin de rafraîchir l'atmosphère.
Elle sera au bar en transe début décembre. C'était Enchantée Julia, accompagnée d'Oscar Hemsch avec leur titre Le Salon sur SILAB.
SILAB,
la radio sauvage.
Le N est avec nous pour nous parler de commerce équitable.
Oui, en effet, mercredi dernier, l'association écolo de Sciences Po Rennes, Revolver, organisait une projection autour de la production de cacao et des ravages qu'elle peut engendrer. Alors, outre les ravages écologiques causés par la déforestation, la production de cacao peut avoir des effets sociaux négatifs. Travail forcé des enfants et manque de ressources pour financer leurs études, utilisation de produits à risque pour la santé, accaparement des recettes par les grosses industries, bref, le chocolat dont raffolent particulièrement les Européens, premier consommateur au monde, cache des secrets pas très glamour.
Et tu as pu interviewer les deux intervenants de la conférence notamment, est-ce que tu peux nous les présenter s'il te plaît ?
Oui, alors les intervenants étaient Lydie Dagono, militante à Artisans du Monde, et Guy Durand, membre du conseil d'administration d'Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières. Alors Artisans du Monde, c'est un réseau associatif qui vend des produits artisanaux et alimentaires issus du commerce équitable, et l'asso Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières défend l'agriculture paysanne. Elle soutient les initiatives des communautés paysannes menacées par l'exclusion et la pauvreté et fait intervenir des professionnels de l'agriculture pour partager les différentes connaissances et compétences.
Avant d'écouter cet entretien, tu peux nous resituer rapidement ce qui a été abordé lors de la conférence ?
Alors, on a vu quelques données d'abord. Par exemple, la Côte d'Ivoire produit à elle seule 40% de la production mondiale de cacao, ce qui en fait le premier pays producteur. On a ensuite vu deux petits films. Alors le premier, c'était un reportage d'enquête exclusive. Les journalistes y dévoilaient le travail des enfants dans les exploitations de cacao et insistaient sur le rôle des grosses industries dans la précarité des producteurs. Elles payent les producteurs un prix misérable et s'accaparent la plus grande partie des recettes. Barry Calbo, Cargill, Olam International, Petra Foods et Blomer sont les cinq acheteurs transformateurs qui s'accaparent plus de trois quarts du marché. Le deuxième film était, lui, un peu plus positif. Il traitait la coopérative El Ceibo, dont on entendra parler dans un instant dans l'entretien. La coopérative, située en Bolivie, se dédie à la production, au séchage et à la transformation locale de cacao. Grâce aux primes versées aux paysans, aux assurances maladie et accidents et aux primes de soutien pour les plus âgés, la coopérative soutient plus de 1000 familles. Un peu plus de la moitié de la production est exportée, mais la vente locale augmente. Les coopératives locales sont donc une alternative à la vente du chocolat par les grandes industries. Mais une autre alternative, c'est le commerce équitable. Et on en parle tout de suite avec Lydie Dagono et Guy Durand. Ce soir, on a parlé de la production de cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux plus gros producteurs de cacao. Est-ce que la consommation actuelle de cacao dans le monde permet aux producteurs de ces pays-là de vivre et d'avoir un salaire et de vivre décemment ?
La consommation devrait leur permettre, puisque la consommation, elle est importante et elle va en croissant. Le problème, c'est l'achat, c'est-à-dire c'est les intermédiaires, c'est les acheteurs de fèves, puis les transformateurs. Les deux tiers de la valeur finale, en fait, passent déjà dans les marques et les distributeurs. Donc, en fait, les producteurs, oui, devraient produire plus et gagner plus, mais à condition qu'on leur achète les fèves à des prix plus importants, ce qui n'est pas le cas.
Donc c'est là que le commerce équitable intervient, j'imagine. Donc le commerce équitable, c'est quand il y a un partenariat entre le producteur et le consommateur qui permet une plus grande équité, qui permet aussi une autonomisation. C'est en tant que consommateur, le commerce équitable, ça peut être un outil pour lutter contre tout ça.
Ah bah absolument, le commerce équitable est vraiment un outil pour lutter contre cette exploitation des producteurs, pour leur permettre de vivre mieux, de pouvoir avoir des projets aussi, de se développer. On l'a bien vu avec l'exemple de la coopérative El Ceibo, qui est un petit exemple, mais qui est très significatif. Ça permet effectivement une autre vie pour eux, quoi. Donc, et nous, consommateurs, c'est notre responsabilité, en effet, d'acheter des produits qui sont certifiés, qui nous certifient que, à la fois au plan humain et au plan environnemental, on respecte les personnes et on les traite dignement.
Je voudrais juste préciser qu'effectivement, le commerce équitable, il est effectivement, c'est soit on a une relation directe, c'est le cas par exemple d'Artisans du Monde qui contrôle l'ensemble de la filière, ou l'idée d'avoir une marque qui permette d'authentifier un label de commerce équitable. Et cela, ça permet finalement d'avoir beaucoup plus de producteurs qui vont être touchés par le commerce équitable. Donc c'est aussi très très important, si on veut augmenter le volume de consommation, je peux trouver des produits du commerce équitable aujourd'hui dans la boutique Artisans du Monde, et je peux en trouver aujourd'hui quasiment dans tous les commerces aujourd'hui, à partir du moment où je regarde le label qui est mis dessus, le label Fairtrade. Et donc ça permet à tous les consommateurs d'être face à leur acte de consommation et d'être capable de dire je préfère acheter ce type de chocolat ou le type de café et parce que je sais qu'au bout les producteurs seront mieux payés. Voilà.
Mais dans le commerce équitable, il reste quand même quelques intermédiaires. Alors qu'est-ce qui va changer? C'est la traçabilité? Alors, c'est la transparence?
Juste le point, effectivement, il reste des intermédiaires, ils sont utiles, ils sont nécessaires. Il faut collecter le produit, il faut le transformer, il faut le transporter, il faut le distribuer. Cela dit, le commerce équitable, lui, simplement, par le label, en tous les cas, c'est la partie que je connais le mieux, vous êtes sûr qu'une partie du surprix que vous payez là au moment de l'achat, il est transmis directement au producteur, puisque c'est là qu'on va vérifier le fonctionnement de la labellisation. C'est-à-dire qu'on labellise effectivement des coopératives qui doivent payer un prix minimum, et en plus, on doit s'engager pour les importateurs et les torréfacteurs, doivent s'engager effectivement à avoir un contrat sur la durée, payer un prix minimum et payer une prime de développement en plus. Donc donner les moyens aux coopératives de base de pouvoir mieux payer les producteurs d'une part et en même temps de pouvoir soit investir dans leur coopérative, soit fournir des services qu'ils n'ont pas, des écoles, des choses. Donc même si ça n'est pas forcément au commerce équitable de fournir les écoles, mais les coopératives peuvent choisir de financer quelques éléments dans l'école ou le service de santé. C'est à eux de choisir l'utilisation de leur prime. Donc c'est ça qui est important, c'est le surprix d'une part, la garantie du prix minimum. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix qui est convenu. Et ensuite, le fait qu'il y a un contrat sur le moyen terme, et puis le paiement d'une prime du commerce équitable. C'est ça d'ailleurs qui est dans la loi. Aujourd'hui, il y a une loi sur le commerce équitable en France depuis la loi Pacte. Oui, et ça maintenant, on ne peut pas dire on est commerce équitable sans remplir ces conditions. Hein. Si vous dites commerce équitable et que vous n'avez pas les spécifications, on peut vous attaquer parce que vous n'êtes pas dans la loi française en tous les cas.
Il y a d'ailleurs un très fort contrôle actuellement sur le commerce équitable. Alors j'ajouterais aussi autre chose d'important dans l'engagement à l'égard des producteurs, c'est le préfinancement. C'est-à-dire que non seulement on s'engage dans la durée, sur un partenariat dont les conditions, donc on détermine ensemble les conditions, c'est négocié, et en plus on préfinance, ce qui permet aux producteurs aussi de pouvoir, eux, investir. Parce qu'un des problèmes souvent des producteurs, c'est qu'ils vendent et sont payés parfois longtemps après. Donc là, ils sont toujours préfinancés, ce qui leur permet, eux, d'investir, de pouvoir travailler correctement.
En Amérique latine aujourd'hui, par exemple, chaque pays qui bénéficie du commerce équitable est organisé. Il y a des plateformes de commerce équitable national et il y a une plateforme latino-américaine, qui s'appelle la Coordination latino-américaine du commerce équitable, qui finalement est un acteur important pour représenter les producteurs. Et aujourd'hui en Afrique, il y a aussi ce type de choses. Et on commence à mettre en place des coordinations nationales de commerce équitable en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, etc. Donc on commence maintenant, c'est-à-dire le commerce équitable a permis finalement d'avoir une force politique pour pouvoir demander autre chose et finalement être les interlocuteurs aussi des acteurs. Et ça, c'est à mon avis la chose la plus importante. Au-delà du prix, bien sûr, il faut que le prix soit minimum, mais en même temps, il faut donner les moyens aux populations de pouvoir s'organiser, se structurer et de défendre politiquement leurs intérêts.
De faire évoluer leurs conditions. Je crois que ça, c'est vraiment dans cette perspective-là aussi que se situe le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un outil d'évolution.
D'après l'UNICEF, il y a environ 152 millions d'enfants qui travaillent alors qu'ils ne devraient pas travailler et la production de cacao n'est pas épargnée. Quand on achète des produits du commerce équitable, est-ce qu'on aide à faire que les enfants soient scolarisés?
Oui, absolument. Oui, c'est un des piliers du commerce équitable, entre autres. C'est effectivement le travail des enfants. Alors, on l'a bien vu tout à l'heure. On a vu que le travail des enfants, il peut y avoir dans les familles des enfants qui viennent aider, ce qui est différent. Le travail ne doit pas être forcé et surtout le travail ne doit pas aller à l'encontre de l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que les enfants puissent bénéficier effectivement de scolarisation et que aussi leur santé ne soit pas compromise par un travail qui est un travail disproportionné par rapport à leurs possibilités. Donc effectivement, le commerce équitable contribue largement à la lutte contre le travail forcé des enfants.
Pour vendre au commerce équitable, il faut avoir une certification. Et si vous ne remplissez pas justement un certain nombre de critères, et notamment le fait de ne pas utiliser de façon permanente le travail des enfants, on vous décertifie, on vous retire la certification. Et ça, c'est important. La certification, c'est comme pour l'agriculture biologique. Si vous ne remplissez pas les critères, il y a des inspecteurs qui passent régulièrement, nationaux d'ailleurs, et qui finalement disent à ce moment-là, on ne peut pas continuer à certifier. Ça, c'est important.
Pour revenir juste sur l'action de Agronomes et Vétérinaires sans frontières, vous aidez les paysans des pays du Sud à se développer, avoir d'autres techniques. Ça se passe comment concrètement? Dans quel pays vous agissez? Et c'est une aide seulement financière, technique? C'est des professionnels qui viennent?
On est présent dans 18 pays. On doit avoir, je crois que c'est de l'ordre de 70 ou plus de 70 projets. Alors, ces projets sont le plus souvent financés sur des financements internationaux, enfin, ou européens, nationaux au niveau français, l'Agence française du développement, éventuellement des entreprises privées, très peu malheureusement, pas assez. Et à partir de là, effectivement, sur le terrain, on a 300 salariés. La majorité des salariés sont des salariés nationaux, qui sont des techniciens ou ingénieurs, donc qui sont porteurs, effectivement, qui vont donner un coup de main à l'organisation, au suivi technique. On développe beaucoup, nous, l'agroécologie, par exemple. Bon, ça ne se met pas tout seul. On voit bien, en France, ce n'est pas forcément évident. Ben, là-bas non plus, ça suppose effectivement une connaissance technique, ça suppose un appui qui est donné effectivement sur place par quelques expatriés. Mais il y a surtout énormément de personnel local qui sont effectivement employés dans le cadre de ces projets. Et donc là, le principe, c'est d'appuyer d'une part les aspects techniques pour faire évoluer les choses et en même temps, d'appui à l'organisation. L'idée, c'est de structurer, c'est d'aider à s'organiser de façon, là encore, à avoir un pouvoir, à prendre un pouvoir économique, un pouvoir politique sur la situation. Et le cas d'El Ceibo est typique de ce genre de choses. Hein. Progressivement, à partir de migrants, en fait, El Ceibo, on est dans le Alto Beni, on est la partie amazonienne de la Bolivie. Ce sont des gens qui venaient de l'Altiplano, de La Paz, etc., qui se sont installés dans la fin des années 60. C'était des paysans sans terre qui se sont installés là. On leur donnait des terres, ils se sont mis à produire du cacao, du café, des choses comme ça. Ça suppose effectivement un appui technique. Quand ils arrivaient des hauts plateaux, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un cacao. Hein. Pour aller de La Paz au Alto Beni, vous traversez des routes, on appelle ça les routes de la mort. Les gens de l'Altiplano ne connaissent pas ces zones-là. Et donc ils arrivent là comme migrants, ils s'installent. Ils ont l'accès à la terre dans ces cas-là, donc ça c'est important. Et à partir de là, il y a tout un processus d'organisation et on voit le résultat. Depuis les années 60-70, on voit aujourd'hui une structuration de la Fédération de coopératives qui est en train d'investir aujourd'hui, qui a investi déjà dans El Alto, qui est la partie haute de La Paz, dans laquelle ils ont effectivement un outil de transformation du cacao en chocolat et ils ont un marché national du chocolat maintenant. Et il y a des magasins de distribution. Donc on arrive maintenant à des choses qui sont structurées à une échelle nationale. Et en même temps, ils exportent quand même dans le cadre du commerce équitable. Donc ça leur donne une puissance économique importante, alors qu'au départ, ça partait de quasiment rien.
Et donc quand on parle de la production de cacao, on pense l'impact écologique que ça, l'impact social que ça, mais il y a aussi du positif, il y a aussi des gens qui, comme vous l'expliquez, qui arrivent à créer des coopératives, qui revendiquent aussi leurs terres face aux grosses industries. Il y a du positif quand même dans tout ça, dans les productions de café, de cacao.
Oui, bien sûr. Non seulement il y a l'emploi, il y a le travail, il y a la production, il y a la fierté, il y a la dignité. Et puis aussi, il y a tout ce qu'ils peuvent apprendre dans la coopérative. Il y a quand même beaucoup d'évolution. Les personnes sont formées et elles exercent aussi démocratiquement des droits. C'est-à-dire aussi qu'il y a tout un apprentissage qui correspond bien d'ailleurs à l'état d'esprit de ces populations qu'on a vues là tout à l'heure. Un exercice de la citoyenneté aussi, et on ne peut que s'en réjouir.
Je remercie Guy Durand et Lydie Dagono d'avoir répondu à mes questions. Une boutique Artisan du Monde existe à Rennes, rue Hoche. Alors si les produits issus du commerce équitable ne sont pas adaptés à tous les portefeuilles, s'engager de temps en temps, quand on le peut, en consommant durablement, c'est un geste important. Toutefois, ce n'est peut-être pas toujours le consommateur qu'il faut blâmer, mais plutôt, je sais pas, Nestlé ou Ferrero, enfin ça, je laisse chacun juger. You have to play
my music. Vous êtes musicien et étudiant et vous souhaitez vous produire sur votre campus, rencontrer des professionnels des musiques actuelles et être accompagné dans votre pratique musicale? Le service culturel de l'Université Rennes 2 propose un tremplin musical destiné aux étudiants des universités de Rennes 1 et Rennes 2, de l'EHESP Rennes, de l'ENS Rennes, de l'ENSCR, l'INSA Rennes et Sciences Po Rennes. Pour participer, envoyez votre candidature avant le lundi 13 janvier. Renseignements et inscriptions via le portail du service culturel sur unif-rennes2.fr.
Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
Syllabe.
À quel moment?
Maintenant.
Écoutons maintenant la radio, donc. Une autre actu campus à présent, toujours avec toi, Bleuhen, la Halo Week à Rennes 2.
Eh oui, alors, ceux qui fréquentent le campus de Villejean ont sûrement remarqué déjà qu'il se tramait quelque chose entre les toiles d'araignées, les vampires et les quelques personnes déguisées qui se baladent. Alors Hugo, chargé de mission Halo Week au bureau de la vie étudiante, est venu nous présenter en quelques mots la semaine. Toute la semaine prochaine a lieu la Halo Week, c'est la semaine épouvante de Rennes 2.
et ça va envahir tous les bâtiments de Rennes 2. Il y aura des escape games, des projections de films, une murder party, plein d'autres choses. Il y a de tout et pour tout le monde. Après tous les événements du début de l'année pour la rentrée, est-ce que la Halloween, selon toi, ce serait pas le gros événement pour que les étudiants se retrouvent tous ?
C'est vrai que c'est l'un des gros événements de Rennes 2 avec la journée campus, puisque tout le campus est décoré dans tous les halls. On se retrouve avec des toiles d'araignée partout, tous les soirs des projections, des loups-garous, des jeux de société, des conférences. Vraiment, on a essayé de toucher large et chaque année, c'est un rendez-vous qui réunit beaucoup de monde.
Il y a plusieurs assos qui participent à l'événement, donc il y a le BVE, mais il y a l'Ordre Symphonique, l'Erasmus Student Network aussi fait une soirée chat and beer spéciale Halloween. Il y a Sentience qui va avoir un stand, il y a l'asso Multiregard, enfin il y a plein d'autres assos encore. C'est un des seuls événements où autant d'associations se regroupent sur un même thème durant toute une semaine. Est-ce que c'est important de créer des événements interassociatifs comme celui-là ?
Bien sûr, et c'est la mission du Bureau de la Vie Étudiante de réunir toutes les associations, et on le voit bien à propos des bénévoles. Les bénévoles viennent de tous les BDE et c'est pour ça qu'on les met en avant. Certains vont tenir des stands de barbe à papa, on ne les a pas tous mis sur le guide sinon la liste est beaucoup trop longue. On a, une association qui tient juste un espace photo, une autre qui va prendre des photos, l'autre qui va faire des jeux de société. On a par exemple Sénar qui va faire une séance interactive de cinéma avec le SA de 2017. Donc vraiment on touche large et c'est super important pour la vie associative.
Ça crée du lien entre les associations, entre les bénévoles. Il y a quelque chose qui se crée entre vous de se retrouver comme ça sur une organisation d'un tel événement ?
Bien sûr, sur la totalité de l'événement, il y a une centaine de bénévoles au moins qui sont concernés, que ce soit de la décoration jusqu'à tenir les projections ou même par rapport à la Halloween Party qui se déroule au 88 mercredi de la Loïc, où on a toute la décoration de la boîte, on a les ventes. Actuellement, les BDE sont en train de vendre les places pour la Halloween. Et donc, c'est super important. Il y a beaucoup de monde et je pense que tout le monde en profite.
L'événement, depuis qu'il a été créé, il a été reconduit chaque année. Ce qui donne envie de la refaire, c'est quoi ? C'est autant l'engouement des assos que l'engouement des participants ?
C'est beaucoup de logistique, mais derrière, on voit vraiment au niveau de l'engouement. C'est, comme je le disais, le festival de Rennes 2. On en parle dans la presse. Je pense qu'il y a peu d'universités, si ce n'est aucune qui a d'événements de la même ampleur. Et ça montre vraiment la capacité de la vie associative de Rennes 2 de faire de tels événements. Et ça montre l'ampleur de la vie associative. Donc oui, c'est pour ça qu'on le retrouve chaque année. C'est tout le temps un succès. Et chaque année, on rajoute des événements. Cette année, on rajoute un escape game pour plus de 400 personnes qui est entièrement gratuit. Donc chaque année, une nouvelle innovation pour la Loïc.
Ça fait combien de temps à peu près que vous êtes en train d'organiser la semaine ?
Qu'on est organisé en train de celle-là ?
Ouais.
Ah ouf, on a commencé il y a peut-être un mois et demi. C'est beaucoup de logistique, mais il y a aussi des choses qui sont plus longues. On récupère des décorations de l'an dernier, on reprend des réflexes qu'on avait avant, mais à chaque fois, il faut commander beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'acteurs, ça a aussi beaucoup d'argent et de logistique, donc ça fait à peu près un mois, oui, si ce n'est deux.
Donc c'est un succès, à chaque fois, cette semaine-là, tous les étudiants se retrouvent. Il y a de tout en plus, parce que dans les projections, par exemple, il y a ça, il y a l'Exorciste, mais ça va aussi faire les Animaux Fantastiques ou Shutter Island, où ça fait un peu moins peur, on va dire. Donc il y a vraiment de tout pour tout le monde, qu'on soit très aficionado de terreur ou pas.
Oui, on essaye d'aller dans partout. Et même, on le voit, parfois, il y a des enfants du personnel qui viennent à la Halloween, comme c'était le cas l'année dernière, pour faire le creusage de citrouille. Donc on fait dans tous les genres, pour que tout le monde soit heureux, des clowns terrifiants jusqu'aux Animaux Fantastiques. Voilà, le but, c'est de toucher à tous les étudiants.
Pour retrouver les infos, on fait comment ? On va sur la page Facebook ?
On va sur la page Facebook, Instagram, de la Loïc, du Bureau de la Vie Étudiante. On va sur les événements et on regarde les guides qu'on a fournis à tous les étudiants.
Super, merci beaucoup Hugo.
Merci.
Merci Hugo donc, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté la Loïc. La Loïc, c'est bien cette semaine, hein, pas la semaine prochaine, ça a commencé déjà aujourd'hui. Alors si vous avez envie de creuser des citrouilles, de vous prendre en photo sur le trône de fer ou de vous faire peur en visionnant le film Ça ou Scooby-Doo pour les plus peureux d'entre nous, promenez-vous dans les bâtiments de Villejean et retrouvez les infos détaillées sur la page Facebook ou Instagram du Bureau de la Vie Étudiante.
Alors ce sera quoi, maître ?
Syllabe, Radio Sauvage.
Alléluia, enfin !
Nouvelle signature du label de Guts, David Walters est producteur, multi-instrumentiste et aussi chanteur. Ce nouvel EP plus que réussi annonce la sortie d'un album attendu pour début 2020. On écoute Mama sur Syllab.
Même sur café mouillé.
ça, oui. Hey, hey. Pas oublier ça, oui. Hey, hey. Pas la dire ça, oui.
C'était David Walters avec son titre Mama sur Syllab.
Qu'est-ce que vous fêtez ?
Dis, qu'est-ce que vous faites ?
La radio sauvage.
Passons maintenant à toi, Jeanne, et ce soir, tu es accompagnée de notre célèbre chroniqueur littéraire, Jean-François. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en studio un grand nom de la scène jazz française. D'abord saxophoniste, mais également clarinettiste, flûtiste et compositeur. Sylvain Riflet est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Paris et a notamment été lauréat des Victoires du Jazz en 2016 dans la catégorie Meilleur Album pour Mechanics. Inspiré largement des courants de musique minimaliste et répétitive, ce multi-instrumentiste n'hésite cependant pas à tutoyer la musique orchestrale puisque vendredi 25 octobre, il présente à l'Opéra de Rennes son album Refocus qu'il va interpréter aux côtés de l'Orchestre Symphonique de Bretagne dans le cadre du festival Ça va jazzer. Sylvain Riflet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avant toute chose, on va écouter un petit extrait de l'album Focus du saxophoniste Saint Getz, une de vos inspirations. Thank you.
Sylvain Rifflet, nous venons d'entendre un extrait de Heur, tiré de Focus, un album de Stan Getz sur des compositions et des arrangements d'Eddie Sauter, enregistré en 1961. Et alors vous, vous avez fréquemment confié comment la découverte de cet album, quand vous étiez adolescent, avait constitué un choc pour vous. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment un album vieux de 30 ans a pu tomber entre vos mains, si j'ai bien compris, dans les années 90.
Ouais, bon calcul. juste, hein, tout début 90. À cette période-là, je tirais les fils des saxophonistes que j'aimais bien, donc ça a commencé par un de mes tout premiers disques de jazz que j'ai vraiment écouté, c'est 58 Sessions, le disque de Miles Davis avec Coltrane et Cannonball. Puis après, de fil en aiguille, j'ai cherché des choses. Et puis chez moi, on écoutait beaucoup de classiques. Une mère pianiste et un père oboïste amateur, les deux amateurs, mais de très bon niveau. Et du coup, on avait... je pense que ça a dû passer par là à un moment. Je me souviens de promotion au printemps, au magasin de printemps, à l'avenue de... Comment ça s'appelle, je me souviens plus, sur le cours de Vincennes dans le 20e, où on avait des disques pour, je sais plus, 10 francs, je sais plus, un truc fou, et j'en avais acheté plein, et il y avait celui là-dedans.
D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a fait écho en vous, Sylvain, en écoutant ce disque qui peut quand même paraître bien sage pour un adolescent au début des années 90?
J'étais un adolescent très sage, je crois. Enfin, en tout cas, en apparence, quoi. Non, mais il y a une forme de beauté quand même. Il y a une forme de, il y a une forme de sublime là-dedans. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, c'est pas si sage que ça. J'ai envie de dire que Heur, c'est peut-être le morceau le plus sage du disque, d'une certaine façon.
C'est pour ça que je l'ai pris.
Ouais, non, mais c'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est magnifique, c'est hyper bien écrit. Getz est sublime dans ce genre de situation. En plus, c'est assez rare d'atteindre ce genre de niveau de mélodie et de beauté avec des choses simplissimes. Le disque n'est pas si sage que ça, justement, parce que dans les rapports entre l'orchestre et le soliste, on est très très loin de ce qui s'est fait avant dans le jazz. La référence étant Charlie Parker and Strings, qui est le truc que tout le monde connaît, que tous les fans de jazz ont écouté, et où les cordes font quand même beaucoup office de tapis. Alors dans Heur, c'est un petit peu le cas, mais il y a d'autres morceaux où l'idée d'Eddie Sauter, c'était d'écrire... C'est une commande, hein. Oui, c'est une commande de Getz. Hein. C'est Getz qui a commandé à Eddie Sauter, qui lui a dit « Ah, mais Verve, ils me disent que je peux faire ce que je veux. Donc je voudrais qu'on fasse... je voudrais que tu me fasses ce que tu as envie de faire. » Et en fait, Eddie Sauter était un peu adoubé par Béla Bartok. Et il s'est dit « Je vais essayer de faire quelque chose qui soit d'une vraie tenue en termes de composition, quoi, qui soit quelque chose de conséquent, et du coup de donner ça à Getz pour qu'il improvise. Et c'était tellement conséquent qu'il a pas mis Getz dans une situation de... Enfin, je crois qu'il y a différentes... Bon, après, c'est des chapelles d'historiens du jazz, c'est pas très intéressant, mais il y a différentes histoires par rapport aux morceaux. Certaines histoires disent qu'ils ont enregistré certains morceaux avec l'orchestre, et d'autres... En fait, la plupart ont été enregistrés après, parce que Getz avait... C'était compliqué de faire une partition. Et en fait, Getz avait pratiquement rien d'écrit dans ce qu'il joue. Et tout est improvisé. Et en fait, visiblement, il se baladait avec un magnéto, et puis il jouait les trucs, et puis il s'entraînait, et puis quand il était prêt, il allait en studio et l'enregistrait.
Et alors, comment est-ce que vous situez, par rapport à Stan Getz, votre propre travail dans Refocus, que vous présenterez, donc, je le rappelle, ce vendredi soir, 25 octobre à 20h à l'Opéra de Rennes, avec les cordes de l'OSB, dans le cadre du Festival de Jazz Symphonique Ça va jazzer.
Alors, j'évite de me situer par rapport à Stan Getz, parce que c'est pas du tout une bonne idée. Sauf que j'ai fait une grosse erreur,
oui, bon,
que j'assume totalement.
Bon.
Mais en fait,
pardonnez.
C'est pas moi qui ai fait l'erreur. Il y a quelqu'un qui aurait dû me dire que je faisais une connerie, pour le dire clairement. J'aurais pas dû appeler ce disque comme ça. J'aurais dû lui donner un autre nom si j'avais été malin. Parce que je donne trop d'informations, en fait. J'avais pas besoin de tuer la poésie en disant « Ah, je vais faire un remake de Focus. Voilà. »
Ce que ça n'est pas d'ailleurs.
Non, voilà.
Non.
Et en fait, du coup, j'induis les gens en erreur et je me suis un peu auto-tiré une balle dans le pied. Donc pour répondre à cette question, je ne me situe pas du tout par rapport à Guest. Le truc, c'est que je me situe par rapport à l'objet, au format. Donc on va pas tirer sur tous les saxophonistes qui font un quartet de jazz en leur disant mais tu te prends pour John Coltrane. Voilà. Là, l'idée, c'était simplement que dans ce format-là, il n'y a pas énormément de choses. Dans le format discussion entre un soliste de jazz et une partition et un orchestre, il n'y a pas énormément de choses. Et puis, je voulais aussi un truc un peu léger en termes de format, c'est-à-dire ne pas être dans un grand orchestre, comme il y a, par exemple, dans... j'ai un trou de mémoire, mais la collaboration de Breaker avec... je sais plus quel arrangeur dont je mange le nom maintenant, mais où là c'est un grand orchestre. Donc il y a tous les pupitres sont représentés et tout ça. Et ça, c'est le problème après, c'est qu'il y a des histoires de contraintes de production et tout ça. Et moi, je voulais un truc comme un peu light. Et voilà. Donc je me situe pas du tout dans une comparaison par rapport à Guess. J'ai piqué le format, j'ai piqué le label au passage. Donc ça m'a fait plaisir.
Ouais, ça c'était
quand même un beaucoup de jokers.
Bien, ouais.
Cette saison en plus, les jokers. Et voilà, et c'est tout. Après, Guest, c'est une énorme influence pour moi. C'est vraiment le saxophoniste que j'adore. Donc, mais en même temps, il y en a plein d'autres. Les coltraniens à Paris, vous secouez, hein. Ou à France, vous secouez un arbre, il en tombe 15. des shorteriens, il y en a plein aussi. Voilà. C'est vrai que les Guestiens, on n'est pas énormément. Alors, du coup.
Dans Refocus, Sylvain Rifflet, vous mêlez justement, vous l'avez dit, un orchestre à cordes et sa partition classique à l'improvisation du jazzman. Ces deux univers, à première vue antithétiques, ça se complète bien, selon vous ?
Ben, ça dépend comment c'est fait. Tout est question de manière, quoi. Enfin, c'est une question de comment... Enfin, voilà. Un baiser est un baiser, mais c'est pas évident, quoi. Bosser, quoi. Non, mais bon, blague mise à part, je pense que justement le fait d'avoir pris Focus comme référence m'enlevait un peu cette épine du pied, le risque de me retrouver dans la position du saxophoniste qui fait le beau avec un orchestre qui s'ennuie derrière. Voilà. Moi, je voulais un dialogue et je voulais un échange. Et d'ailleurs, j'espère que c'est ça ce que les gens verront vendredi. C'est un échange entre un orchestre. Dirigé, certes, mais entre un orchestre qui joue une partition que j'ai voulu conséquente, et puis moi qui fais n'importe quoi par-dessus.
Deux univers qui se rencontrent, en fait.
Exactement. Deux mondes qui dialoguent par le moyen de cette partition. Quoi. L'autre truc aussi, c'est que Guest n'a pas écrit la musique.
Non.
Moi, j'ai écrit la musique. Ce que je veux dire, c'est que du coup... Moi, j'ai pensé mon projet, je suis tributaire de personne. Enfin, il y a un arrangeur qui est Fred Palem, qui a fait aussi une part de composition sur certains morceaux, mais tous les morceaux quasiment sont de moi. Et du coup, je les ai aussi pensés pour moi et aussi dans un rapport que je souhaitais avoir avec cet orchestre.
Justement, est-ce qu'écrire pour un orchestre classique, ça vous a semblé très différent de l'écriture d'arrangement de jazz à laquelle vous étiez peut-être plus familier ?
Dans la mesure où il y avait Fred Palem qui faisait les arrangements, ça m'a aussi enlevé une partie de la difficulté. Voilà. Après, la place de Fred sur les morceaux, elle n'est pas la même sur tous. Donc il y a des morceaux où je lui ai livré des choses très très abouties, où il a simplement fait de la répartition de voix en disant les premiers jeux vont faire ça, un contrebasse fera ça, on va lui demander de faire ça, enfin voilà. Et puis par contre, il y a des morceaux où il a pris beaucoup plus de place, je lui ai simplement donné des éléments simples de mélodie et d'harmonie. Voilà, donc c'est pas partout pareil, c'est pas totalement homogène en termes de voilà. Et puis quant à la difficulté, ben je suis formé. Vous l'avez dit, j'ai fait des études au conservatoire. Quand on est au conservatoire, dans la classe de jazz, on apprend un certain nombre de choses. On apprend, voilà. Puis je continue à travailler, je continue à apprendre. Ça m'amuse aussi de faire des choses que j'ai jamais faites et j'essaie de les faire du mieux que je peux. En général, j'évite de me retrouver dans la situation où où on me dit c'est mal écrit, c'est mal fait. Quand je sens que je peux me retrouver dans cette situation de fragilité, je préfère m'associer avec des gens qui sont compétents. Et dans ce cas-là, que ce soit Fred ou Mathieu Herzog, qui est le chef d'orchestre, qui a dirigé Appassionato pour l'enregistrement, c'est des gens qui, en regardant la musique, étaient à même de dire si ça allait ou si ça allait pas.
Alors, donc, cet album Refocus Verve 2017 est enregistré sous le label Verve, comme l'était Focus en 61, et il est enregistré avec l'ensemble à cordes Appassionato. Mm-hmm. Mais c'est avec les 26 cordes de l'OSB que vous l'avez interprété en mars dernier,
ouais,
au théâtre de Cornouailles sur la scène nationale de Quimper.
Ouais, où je suis artiste associé, en fait. Voilà. Compagnon témoin. Pour...
Et que vous le redonnerez à l'Opéra ce vendredi soir. Alors, comment s'est passée la rencontre avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne?
Bah, extrêmement bien. Ils sont hyper professionnels, hyper volontaires. Je crois qu'ils sont très contents de jouer ce programme. Puis surtout, je crois que par rapport à ta question tout à l'heure, je pense qu'ils ont conscience que l'objet est bien fait et le projet est bien conçu. Les partitions qu'ils ont sont des partitions faites par des musiciens professionnels, des compositeurs et des arrangeurs professionnels. On ne les met pas dans une situation où justement c'est un petit musicien de jazz qui a décidé de se faire son petit projet symphonique comme ça, par-dessus la jambe, et voilà. Donc je pense qu'on est pris au sérieux, moi je les prends au sérieux, ça se passe extrêmement bien, voilà. Les rapports avec l'orchestre sont super bons, l'orchestre joue bien, impeccable. On a fait, François, tu dis qu'on l'a joué en mars, c'est ça? Oui,
mars,
je crois que c'est ça.
Oui.
Bah, on a fait une répétition de 2h30 aujourd'hui, et il n'y a pas de problème, tout va bien, c'est encore, la musique est encore là.
Parfait. Eh bien, on va écouter tout de suite votre titre Egyptian Riot, tiré donc de l'album Refocus, et un album que le public rennais et peut-être autour pourra entendre à l'Opéra vendredi.
On va parler un peu de votre actualité, Sylvain Riflet, puisqu'au mois de septembre, vous avez sorti un nouvel album Troubadour, sous le label Magriff. Vous y revisitez la musique médiévale profane des Troubadours et des Troubarites au féminin. Les titres sur votre album leur rendent d'ailleurs hommage. Qu'est-ce qui vous a décidé à remettre au goût du jour ces poètes de la musique profane ?
C'est pas vraiment une décision de les remettre au goût du jour. En fait, j'avais envie de faire un disque de musique effectivement inspiré par les musiques profanes du Moyen-Âge. Principalement, c'est une combinaison de choses. En fait, j'avais envie de travailler avec un trompettiste finlandais qui s'appelle Verneri Pohjola, et puis avec un percussionniste avec qui je travaille depuis maintenant une dizaine d'années qui s'appelle Benjamin Flamand. Et puis j'avais très envie de faire un disque de musique ce qu'on appelle modal, sans tomber dans les clichés de cette musique. Et du coup, j'ai combiné tout ça, j'ai mis tout ça dans une boîte. Et il en est sorti c'était aussi une période où j'écoutais beaucoup de musique. Du coup, vu qui dit musique modale, je suis allé chercher un peu à droite, à gauche, des influences de choses diverses et variées. Et voilà, j'en suis arrivé à ça, j'en suis arrivé à la musique médiévale. Je me suis dit qu'il y avait là des espaces à ouvrir pour faire, pour improviser, pour jouer avec les musiciens avec qui j'avais envie de jouer. Voilà, après l'histoire des noms des troubadours, j'avoue clairement, c'est un collage post-production, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas écrit des morceaux en me disant...
Vous n'êtes pas inspiré de spécifiquement ?
Non, pas du tout. Je crois pas du tout au truc d'inspiration. Je suis un gros relou avec ça. J'y crois absolument pas. Je crois au travail. Voilà. Donc en fait, mes morceaux, la plupart du temps, c'est des choses que je bosse. C'est-à-dire que je me dis, je veux un morceau dans cette esthétique-là, avec cette idée-là, avec un solo comme ça, avec qui met tel truc en valeur, qui soit par exemple à tel tempo. Enfin voilà, je mets des caractéristiques et je remplis les cases.
Un saxophone, une trompette, quelques percussions et un bourdon à base d'harmonium et de shrutibox.
Ouais, j'ai oublié de dire ça.
Voilà les instruments qui composent votre album Troubadour. La shrutibox, c'est un instrument indien à hanches.
Exactement.
Ce n'était pas un instrument utilisé par les troubadours européens, on s'en doute. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'intégrer dans cet album ?
Alors d'abord, une petite histoire avec la musique indienne qui, je pense, va continuer dans les années à venir. J'ai appris un peu la musique indienne, la musique hindoustani du nord de l'Inde quand j'étais au conservatoire, un petit peu, hein, vraiment je suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai, voilà. Et l'année dernière, il y a deux ans, on a fait une tournée en Inde avec mon orchestre qui s'appelait Mechanix, que vous avez mentionné plus tôt, et voilà, et cet instrument m'a fasciné. J'ai acheté une petite shrutibox chez un facteur à Delhi, à New Delhi. Et depuis, je faisais des improvisations avec. Enfin voilà, c'est un truc un peu qui m'a entraîné. C'est une petite boîte qu'utilisent beaucoup les Sikhs dans les temples pour faire le bourdon. Voilà.
Merci Sylvain Rifflet.
Merci à vous. Merci,
je le rappelle, vous êtes saxophoniste de jazz et vous présentez ce vendredi votre album Refocus aux côtés de l'Orchestre Symphonique de Bretagne dans le cadre du festival Ça va jazzer. C'est à 20h, vendredi 25 octobre, à l'Opéra de Rennes, et les places sont en vente sur le site de l'Orchestre Symphonique de Bretagne. Vous pourrez également découvrir cette fin de semaine dans Ça va jazzer Naysam Jalal et son quintette Rhythm of Resistance, et Samy Thiebaud qui présentera son concert Symphonic Tales. Tout de suite, pour clore cette émission, on écoute le titre « Aible » de Ventadour, du dernier album de Sylvain Rifflet, Troubadour.